responsable, engagé au service de sa région.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1, il est 11h. Les informations, Alexis de la Fléchère.
Bonjour à tous. Direction Givors, près de Lyon, où de violents incidents se sont déroulés hier soir. Des groupes de jeunes très mobiles ont semé le chaos en allumant plusieurs feux et en tirant des mortiers, probablement dans le but d'attirer les forces de l'ordre et d'en découdre avec elles. Une volonté peut-être, la piste a en tout cas été évoquée, de représailles après des arrestations. Écoutez la réaction du maire de Givors, Mohamed Boudjelaba.
J'ai deux voitures de police municipale qui ont été incendiées, des briques de glace sur des véhicules municipaux. D'après ce qu'on me dit, c'est des mômes, que je suis sous le choc, le fait qu'on ait ce type de comportement, mais en même temps combatif parce que la politique que nous menons en termes de sécurité, malgré le fait que nos véhicules soient brûlés, démontre qu'on est en train d'embêter tout un écosystème. Et on va continuer dans cette voie-là, d'aller encore plus loin dans la sécurisation de nos concitoyens. Et on lâchera pas. Et puis j'espère que la justice pourra condamner en tout cas les fauteurs de troubles s'ils sont attrapés.
Le maire de Givors, joint par Thomas Lacroix pour Europe 1. On en vient à notre sondage du jour. Faut-il supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes? Eh bien, selon l'étude CSA exclusive pour Europe 1, CNews et le JDD, à cette question, les Français interrogés ont répondu oui assez massivement, à 72%. Éric Dupond-Moretti présente lui aujourd'hui dans la presse des mesures pour mieux lutter contre les réseaux criminels de narcotrafic avec la création d'un statut de repenti pour les trafiquants prêts à donner des informations à la justice. Statut qui prévoit des peines moins lourdes et un changement d'identité lors de la réinsertion. Il dit aussi vouloir un nouveau parquet, le parquet national contre le crime organisé. Cette réforme doit être présentée en octobre prochain. Tu menaces, tu bloques, tu l'emportes. Le tacle ce matin sur Europe 1 de François-Xavier Bellamy à Gabriel Attal. La tête de liste LR aux européennes fait référence au blocage étudiant pro-palestinien à Sciences Po et demande au gouvernement d'envisager un arrêt des subventions publiques à l'établissement qui a cédé face aux manifestants. Allez, le sport avec la suite et la fin de la 31e journée de Ligue 1 ce soir. Marseille reçoit Lens à 21h en clôture. Un peu avant, à 19h, on suivra Lyon-Monaco. Un nul ou une défaite monégasque officialiserait le sacre de champion de France du PSG. Paris qui a repoussé l'échéance après son nul 3 partout hier contre le Havre. Enfin, le pronostic de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Longchamp. Thierry, vos conseils de jouer le 16, le 8, le 2, le 10, le 4, le 3, le 9 et le 14. 11h03 sur Europe 1, lors de retrouver Balade en France, présenté par William Lémergie.
Europe 1, 11h30, Balade en France, William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France. Balade avec un S, s'il vous plaît, car il y en a de nombreuses balades aujourd'hui, comme chaque semaine, vous me direz, et vous avez raison. Par exemple, la balade insolite que nous propose notre partenaire, le guide du routard, par la voix de son ambassadeur plénipotentiaire, s'il vous plaît, alors qu'il occupe ce poste dans notre émission depuis sa création, hein, dites donc. Eh oui, vous êtes la bouteille, vous. Alors, bonjour, Gavinis, Clémenté et Ruiz. De quoi s'agit-il quand on dit balade insolite?
Alors, bonjour à tous, bonjour William. Alors, balade insolite, bah c'est le radôme. C'est quoi le radôme? C'est à Pleumeur-Baudou, dans les Côtes d'Armor. C'est un ancien centre géant de télécommunications.
Oui. Ah oui,
vous allez voir, et il va vous permettre de faire plein de visites et surtout d'aller visiter cette cité des télécoms. C'est pédagogique et c'est même ludique.
Ensuite, et c'est ce qui fait, je crois, l'originalité de notre émission, on vous propose la visite d'une fabrique, ça n'a rien à voir, d'une fabrique de brosses à dents 100% française, qui est située à Beauvais, dans l'Oise, et qui ne date pas d'hier.
Hein. Ouais, ça, depuis le 19e siècle, la brosserie française, c'est comme ça que ça s'appelle, elle innove, et vous verrez de quelle façon, et surtout avec quels produits.
Après cela, direction l'Essonne. L'Essonne, bon, c'est à une heure de Paris. Hein, pour visiter le château de la Bonde, là où a vécu, enfin c'est juste à côté, hein, un créateur tous azimuts, Gavin.
Ouais, c'est Jean Cocteau, hein, il a brillé dans plein de domaines. La poésie, le cinéma, la littérature, oh, la peinture, que sais-je encore. C'était un artiste polyvalent et sa maison lui ressemble, vous verrez.
Ensuite, vous entendrez les confidences attendries de l'acteur magnifique André Dussolier pour une île où il passe le plus de temps possible, c'est l'île de Ré. Il vous dira pourquoi il va là-bas au micro de Daniel Moreau. Après cela, la balade sémantique avec une expression régionale qui nous vient du Nord Picardie. Quand on est Picard, on dit à la revoyure, hein Sarah?
Oui, bonjour William, bonjour à tous. Oui, évidemment, vous avez compris que ça voulait dire on va se revoir. C'est bienveillant, c'est convivial, mais l'origine exacte a été puisée dans le dialecte local.
Mm-hmm. Et tout de suite après, vous aurez droit à une balade culinaire régionale, elle aussi bien sûr. Nous irons jusqu'à Reims avec notre chef cuisinier Fabrice Mignot. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous, bonjour William. Alors oui, je vous parlerai du biscuit rose inventé dans cette ville des rois au XVIIe siècle. Mm-hmm. Et vous savez, à l'époque, la veille des sacres, le biscuit était trempé dans du champagne, et s'il restait entier, ça signifiait que le règne serait tranquille. Ah. Bon, un peu superstitieux les rois, hein. Je vous expliquerai tout ça.
Après cela, une balade écolo à bord d'un bateau spécial, Gavin.
Ouais, il est très spécial parce qu'il est électrique, il est donc silencieux, il ne pollue pas. Vous le piloterez où ça? Sur le Doubs, avec en plus vous avez un franchissement d'écluses.
Mais on va apprendre à faire ça, ouais. Mais même si vous le louez sur place. Ouais. Juste après, avec Sarah Adoraghi, nous irons tout près de Paris, à Meudon, pour visiter un espace culturel sur 10 hectares, s'il vous plaît.
Oui, au hangar Y, il fallait au moins ça pour une plongée historique dans le monde du jouet avec des pièces venant du monde entier.
Eh bien, tout ça, c'était le sommaire, figurez-vous. Voici maintenant le détail, je vous sens impatient.
Balade en France, William Lémergie sur Europe 1.
Pour commencer cette première balade, hein, qui va nous permettre de découvrir un site grandiose qui est situé à Pleumeur-Bodou, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Il s'agit du parc du Radôme. Gavin, qu'est-ce que ça veut dire, Radôme?
Alors, Radôme, c'est la contraction du mot radar et du mot dôme. Et c'est une énorme boule blanche, si je devais vous la représenter à l'antenne, avec un tour de taille, attention, 200 mètres, 54 mètres de haut, ça fait un bon tour.
Ah non,
de...
on la voit de loin.
Ouais,
oui,
on la voit de loin, hein, c'est assez spectaculaire. Il est classé monument historique, hein, ce radôme, depuis l'an 2000, et c'est là qu'a été installé, en 1962, quelques années avant, un centre de télécommunication spatiale qui a permis d'être en liaison, en fait, avec le monde entier. Et aujourd'hui, eh ben, vous pouvez le visiter, c'est ce qu'on appelle la cité des télécoms et c'est assez unique en son genre.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Pierre-Yves Parentoven qui est le responsable muséographie et exposition au pluriel de la cité des télécoms. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour à tous, bonjour Yann.
Alors dites-moi Pierre, à l'époque, quel était le but quand on a créé ça, de ce centre et pourquoi a-t-il été installé là sur la côte de Granit Rose?
Alors comme vous le disiez tout à l'heure, 1962, c'est la période de la guerre froide. Oui. On a les USA et l'URSS qui s'affrontent et qui notamment font beaucoup de recherches dans les nouvelles technologies, dans de nouveaux domaines, dont le spatial. C'est le début aussi de la conquête spatiale. Mmh. Spoutnik venait d'arriver il y a quelques temps. Et donc, les USA décident de lancer un projet pour cette fois-ci lancer un satellite dans l'espace pour permettre justement d'échanger des signaux de télévision et de téléphone. Mmh. C'est vraiment un projet, une expérience qui va être menée à cette époque. Et pour mener ce projet à bien, eh bien, les États-Unis ont cherché parmi leurs partenaires, leurs alliés de l'époque, des pays qui soient susceptibles de participer à cette expérimentation.
Et la France a répondu oui, mais c'était quoi? C'était quel président? Nous sommes en...
1962.
Ah oui, donc
il est grand,
il a un képi, il est arrivé en 58, mais on le connaît déjà. Et mais ça m'étonne parce que c'est ça, c'est évidemment Général de Gaulle, tout le monde avait compris, mais pourtant lui et les Américains, c'était pas ses meilleurs potes. Hein. Je me dis, tiens, il avait quand même du pif, hein, parce qu'il a su que c'est par là qu'il fallait aller, quoi, la nouvelle technologie.
Oui, nouvelle technologie et surtout offrir à la France une indépendance au niveau des télécommunications.
D'accord. Sarah?
Vous avez, paraît-il, créé une sorte de mise en scène assez particulière qui symbolise la première liaison satellite. De quoi s'agit-il?
Alors, effectivement, elle est toute particulière puisque nous proposons à nos visiteurs de remonter le temps. Et plus exactement, dans la nuit du 10-11 juillet 1962, oui. où la station de Plumeur-Baudoux a reçu les premières images de télévision par satellite en provenance des États-Unis. C'était un véritable exploit et surtout une première mondiale. Alors, vous pouvez imaginer l'effervescence qu'il y avait à l'époque dans les préparatifs techniques et autres. Et ce que nous proposons à nos visiteurs, bah, eh bien, c'est justement de revivre tous ces préparatifs jusqu'au moment crucial où la France a réussi à recevoir les premières images en provenance des États-Unis.
Ouais, d'accord, c'est historique, quoi. Gavis.
Oui, Pierre-Yves, vous avez également, à la Cité des Télécoms, retracé toute l'histoire des télécommunications et du numérique. Mais au fond, vous remontez jusqu'à quand ?
Bah, je vous dirais depuis les débuts, mais je mentirais. Il a bien fallu choisir une date. Donc nous avons commencé à la fin du XVIIIe siècle avec le télégraphe optique de Claude Chappe. Je ne sais pas si vous connaissez le télégraphe.
Oui. Télégraphe, oui. Monsieur Claude Mal, on le connaît pas. Mais télégraphe, ah oui, 18e quand même, c'est pas mal.
Oui, 1791. Alors c'était ce qu'on appelle un sémaphore, une sorte de petit bâti qui était positionné en hauteur à intervalles réguliers et qui avait des branches en bois, des pales en bois que l'on manipulait et qui formaient des signes et donc un code. Et à ce moment-là, ça permettait visuellement de pouvoir transmettre un message comme ça de télégraphe de Chappe en télégraphe de Chappe. Et on faisait un Brest-Lille, par exemple, en moins d'une heure à l'époque, en passant par Paris.
Sarah ?
Oui, vous avez prévu également, il paraît, un certain nombre d'activités auxquelles les visiteurs peuvent participer. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ?
Oui, bien sûr. Alors, on a une activité très riche à la Cité des Télécoms, puisque nous recevons à la fois du grand public, mais aussi un public scolaire. Nous leur proposons tout un tas d'ateliers autour du numérique, notamment, comme la programmation robot, ce genre de choses, et beaucoup d'activités extérieures.
Dites-moi, vous avez aussi des expositions temporaires, parce que la plus récente, elle m'intéresse sacrément, hein, ça concerne des effets spéciaux de cinéma. Chouette, alors je vais revenir à Plumeur-Baudoux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut voir ?
Alors, c'est une l'exposition s'appelle Effets spéciaux, effectivement, crever l'écran. Elle est accessible à partir de 7 ans, elle est extrêmement interactive, et c'est 700 mètres carrés d'exposition, où le public découvre à la fois les techniques d'effets spéciaux, qu'ils soient anciens, je pense notamment à Méliès, par exemple, mais bien évidemment moderne, avec tout ce qui est 3D, grand fond vert, j'en passe, et des manières. Ils découvrent toutes les techniques qui sont aujourd'hui employées au cinéma, dans les vidéos et dans les séries télévisées.
Sarah,
je voulais vous dire aussi, je trouve que voilà, votre site est très malin, parce que j'imagine qu'on peut voir sur place le planétarium de Bretagne, mais aussi un village gaulois.
Ah, c'est bien ça.
Et qui va bientôt ouvrir pour la saison, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ce sont nos voisins et partenaires, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, bien sûr.
Ouais.
Nous sommes tous sur le parc du Radôme. Alors, le planétarium, bien évidemment, pour ses séances d'astronomie. Ouais. Et le village gaulois, qui propose de nombreuses activités, comme des jeux en plein air, des parcours dans les arbres, et de la balade, des balades sur un plan d'eau.
Merci, hein, Pierre-Yves, pour cette visite rapide du Radôme. Je rappelle que ce bâtiment unique date de 1962 et qui permet, comme vous venez de le rappeler, de retracer toute l'histoire des télécommunications, et y compris l'apport de la France dans cette technologie-là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci.
Merci, William. Au revoir.
D'autres infos, M. Gavis, d'autant que vous venez, si je me trompe, de sortir un guide du routard spécifique de la région, non ?
Vous êtes bien informé, William, exactement.
J'ai un gars dans les...
C'est vrai ?
Sur place.
C'est vrai, ouais. D'accord. Ça s'appelle le routard Côte de Granit Rose Perros-Guirec. Donc on est c'est précis. Et on est pile dans la zone, hein, quand même.
Ouais.
Et pour la visite du radôme, eh bien, c'est à l'intérieur du guide, bien sûr. On explique tout et on donne le tarif, c'est 13 euros pour les adultes, 9 euros pour les enfants. C'est ouvert en règle générale du lundi au vendredi, de 10h à 18h, et le dimanche après-midi et tous les jours d'été. Et je vous invite à vérifier sur leur site qu'on indique sur europe1.fr.
Est-ce qu'on pourrait rester sur place ? Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'activités, il y a de la visite à faire, parce qu'il y en a des mètres carrés, voire des hectares à aller voir de près. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va dormir à Plumeur-Baudoux ?
On peut dormir à Plumeur-Baudoux.
À Perros-Guirec, non ?
À Perros-Guirec aussi. Et j'ai une petite info à vous donner, c'est très sympa. Justement, au Radôme, au beau jour, il y a un food truck qui s'installe. Vous savez, ce sont ces camions aménagés pour servir à manger. C'est le food truck de Virginie. Et qu'est-ce qu'on sert dans le food truck de Virginie ? Je vous le donne dans le de Mille. On est à Perros-Guirec, pas loin, sur la côte de Granit-Rose. Eh ben, on mange des crêpes et des galettes.
Allez, dans un instant, sur Europe 1, un site du savoir-faire qui va vous permettre de passer de la haute technologie, là maintenant, d'où nous venons, et à une tradition française qui date de 1845, quand même.
Balade en France, 11h30.
William Lémergie.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, dès demain chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué. Hein.
En barquette patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
On sort ce soir? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là?
Hein, pardon, tu disais? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes?
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1,
11h30.
Balade en France, William Lémergie.
Et voici la balade du savoir-faire. C'est un bel exemple de tradition française qui a failli disparaître quand même, Gavin.
Et oui, et pourtant, nos amis sont là pour maintenir la tradition. Heureusement, ça se passe à Beauvais, on est dans l'Oise, c'est une fabrique de brosses où on produit encore quoi ? Eh bien, des brosses à dents, 100% françaises. D'ailleurs, ça s'appelle comment ? La brosserie française. Et ça ne date pas d'hier, William.
Ah bah oui, elle a été créée en 1845. Et d'ailleurs, dans cette région de l'Oise, il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs au cours du siècle précédent, non ?
Ouais. Et celle-ci, c'est une entreprise du savoir-faire français reconnue grâce au label. Vous savez, on en parle souvent dans Balade en France, entreprise du patrimoine vivant, qui utilise toutes les techniques d'aujourd'hui pour innover, parce qu'on pourrait pas avoir les mêmes brosses à dents. On y fabrique certes des brosses à dents 100% françaises, mais aussi toutes sortes de brosses. Hein.
Oui, bien sûr. On va parler de ça avec Olivier Reboissonnet, qui est le directeur général de la brosserie française, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour, Olivier.
Et bonjour tous les trois.
Bonjour. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que vous avez sauvé cette usine en quoi, 2012 à peu près. Et quel était le défi à l'époque ? Je ne sais pas moi si j'avais eu à faire ça, mais heureusement on ne me l'a pas confié. Il aurait fallu trouver un financement, trouver des nouveaux modèles de brosses et trouver de nouveaux clients. C'est à peu près ça ou pas, Olivier ?
Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est à la fois très complexe et en même temps très simple. On est arrivé au bout d'un cycle avec l'entreprise qui était à bout de souffle sur son modèle économique. Ah. Moi, l'objectif, c'était justement de conserver une chose, c'est le savoir-faire, et de balayer tout le reste en réinventant le modèle économique. C'est ce qui nous a permis de conquérir de nouveaux clients, de nouveaux réseaux de distribution. Oui. Et notre légitimité, c'est pour faire du consommer mieux. D'accord. Et donc, on pouvait plus continuer comme avant. On a tout simplement balayé.
Et la concurrence à l'époque, elle était notoirement française ou il y avait déjà des pays d'Asie, par exemple, qui gagnaient du terrain ?
Alors, historiquement, le marché s'était relativement très bien installé en Europe. Et puis, la mondialisation a rebalayé les cartes. L'Asie est montée très vite en puissance sur les années 2000. Et donc, c'est là où le modèle économique s'est retrouvé très, très déstabilisé. Ah. Mais je dirais que cette entreprise était leader sur son marché sur les années 80-90, sur toute l'Europe. Oui.
Ah, très bien. Sarah ?
Pourquoi le département de l'Oise est-il plus que d'autres, hein, lié à la brosserie ? Est-ce que c'est la présence de l'eau ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, cette entreprise qui était la première et qui était pionnière a fait des émules. Et oui. Du coup, la vallée du terrain s'est bercée de la brosserie avec une entreprise, puis une deuxième, jusqu'à 40 entreprises qui se sont installées. Et l'eau, effectivement, comme les brosses à dents historiquement étaient faites à partir d'os de bovins, il fallait les laver, les entretenir. Et donc, l'eau était utilisée pour son énergie motrice, mais aussi pour pouvoir nettoyer les autres bovins.
Là, vous nous avez informé d'une chose qui, pour vous, a l'air normale. Les brosses à dents, c'était fait avec des os de bovins.
Eh ben, historiquement, avant l'avènement du plastique, c'était les os de bovins et le poil de sanglier. Et on assemblait l'ensemble et ça nous faisait une brosse à dents.
La présence de l'os.
Oui, elle a dit présence de l'os. C'est un jeu de mots, Olivier.
Et des bovins à bovins.
Ah, vous voyez, Olivier rit.
Oui, merci. Olivier, il est sympa.
Et Sarah n'a pas dit que les bovins à Beauvais.
Mais je suis étonné, moi, le coup des os de bovins, ça c'est incroyable.
Avec des poils de sanglier.
Il y avait tous les animaux de la ferme qui bossaient pour travailler pour faire les brosses à dents. C'est incroyable.
La brosse à dents, ça paraît assez simple, hein, des os de bovins, des poils de sanglier. Comment vous avez fait pour innover? Ça n'a pas dû être facile. Sur quoi vous avez pu agir? Peut-être changer les matériaux, je suis quasiment certain.
Notre légitimité, elle passe par le fait de revenir à l'essentiel. Notre brosse à dents, historiquement, qui était un produit d'efficacité, est devenu un produit de marketing. Et donc, on en a oublié son efficacité, pourvu qu'il y ait des couleurs, des poils dans tous les sens, et que ça donne le sentiment de bien brosser. Nous, on est revenu à une base qui est de dire, la brosse à dents doit avoir une bonne conception, une petite tête pour avoir un accès à toutes les zones de la bouche, et faciliter son brossage. Et ensuite, c'est son impact environnemental. 200 millions de brosses à dents qui se consomment en France et qui ne peuvent pas être recyclées parce qu'il n'y a pas de filière existante à part celle que nous on a mis en place depuis.
Ah bon ?
Eh bien, en fait, ça a un impact environnemental énorme. Et donc, avec la fréquence d'utilisation tous les 3 mois, nous on s'est dit, le but, c'est que notre brosse à dents, elle soit génératrice d'économie circulaire. Donc, le Made in France porte cette économie circulaire, mais qu'en plus, on n'utilise que des plastiques recyclés. Du bois qui a été déclassé dans des filières de l'ameublement pour qu'on le réutilise sur la filière de la brosserie, et des bioplastiques qui sont des déchets d'autres industries, comme par exemple la coquille Saint-Jacques ou le lin, qui font en sorte que tous ces déchets générés dans ces filières, on puisse nous les collecter et fabriquer nos brosses à dents à partir de ces déchets.
Alors, vous avez dit des tas de choses très intéressantes, mais une chose à laquelle je n'avais pas pensé, une petite tête pour pouvoir aller partout dans la bouche. Moi, je me souviens encore, il y avait des brosses à dents, c'était des vrais trains. On n'arrivait pas à se les mettre dans la bouche.
Parce que pour beaucoup de ces dernières années, on a voulu faire penser que la technicité passait par la grosse tête où on pouvait exprimer plein de savoir-faire. Mais en fait, la sobriété est l'essence même de l'efficacité de votre brosse.
Mais non, mais c'est bien. Maintenant, je comprends pourquoi les têtes sont petites. C'est la bonne idée. Sarah.
Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a toutes sortes de brosses à dents à tous les prix, toutes les matières et tout. Tout le monde s'est dit un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'il fallait innover. Est-ce que la concurrence est vraiment rude? Et puis, j'imagine aussi, évidemment, il y a des pays très très loin qui doivent fabriquer des brosses à dents pas très chères.
Oui, ça existe depuis des années. Là aussi, je pense que ce modèle économique est à bout de souffle parce qu'en fait, c'est la planète qui crie stop. Et est-ce qu'une brosse à dents de 15 grammes a besoin de faire 10 000 km pour arriver dans notre gobelet?
Ça, c'est sûr.
Eh bien là, en fait, on est tous d'accord qu'on est arrivé au bout de cette histoire-là. Il faut maintenant réécrire un peu ces modèles économiques. Et nous, on arrive avec une alternative où entre 3,50 et 4,50, on peut faire des choses. Et on a des brosses à dents qui sont tout à fait concurrentes avec les produits made in ailleurs. Et qui raconte une histoire différente. Et donc ça, le plus important, quand on est sur bioseptile.fr ou dans nos réseaux de distribution, des magasins bio, des pharmacies et maintenant la grande distribution, parce qu'on arrive aussi en grande distribution avec les vertueux, c'est de montrer que pour des tarifs qui restent tout à fait compétitifs, vous êtes porteur du Made in France, d'économie circulaire et de bien-être pour la planète.
Et oui, vous venez de le dire d'ailleurs, Olivier, il y a des concurrents incroyables, qui est fabriqué, rendez compte, ils fabriquent un Made in ailleurs ou alors un Made in là-bas. Il y a aussi
On m'a dit mais vous savez, il y a ce Made in là et il y a le Made in France qui ne dit pas toujours son nom aussi. C'est pour ça que nous, on veut absolument être certifié Origine France Garantie pour que le consommateur ne soit pas leurré dans son acte d'achat et que quand on a un drapeau bleu, blanc, rouge sur notre brosse à dents, c'est vraiment un acte citoyen et que ce n'est pas juste designé quelque part. C'est vraiment une fabrication en France et d'ailleurs, on ouvre nos usines justement pour démontrer la transparence de la fabrication.
Et je confirme pour les auditeurs d'Europe 1 que la tête de la brosse à dents est bleu, blanc, rouge, avec le tour rouge et le cœur qui est bleu. Olivier, on disait il y a quelques années encore, je me souviens de ça, oh, les Français, ils se lavent pas souvent les dents, ils en changent pas assez.
Oui, ils en changent pas assez.
Moi, j'ai entendu oui, dire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va mieux ou qu'est-ce qu'il faut faire pour les convaincre, les Français là,
Ça va un petit peu mieux, mais il faut reconnaître qu'en Europe, on est un peu les derniers élèves sur le fait de remplacer notre brosse à dents en temps et en heure.
La durée.
En fait, en moyenne, l'Europe du Nord remplace sa brosse à dents à moins de 3 mois. Alors que en France et un peu l'Europe du Sud d'une manière générale, mais surtout en France, on est à 5 mois et demi. Sur notre site de vente en ligne bioceptile.fr, on a apporté le service qui est de dire, avec un abonnement, vous payez pas plus cher que vous l'auriez en magasin, mais c'est surtout quand elle arrive dans votre boîte aux lettres, vous répondez à la question, depuis quand ma brosse à dents est dans mon gobelet?
Pas mal.
Vous avez choisi votre fréquence 1, 2 ou 3 mois en fonction de votre usage, et du coup, la brosse à dents, quand elle est dans la boîte aux lettres, c'est qu'il est temps de remplacer celle dans le gobelet, et vous avez toujours une brosse à dents efficace.
Quelle belle idée, bravo.
Bien joué, Olivier. Ah ouais. Pas bête, là, Bioceptile. Hein, bien...
Et vous en produisez... Made in France a beaucoup de ressources. Hein.
Ouais, vous en produisez combien par an, à peu près?
On fabrique 8 millions de brosses à dents par an, à peu près 300 à 400 000 brosses à cheveux et encore d'autres brosses, puisqu'on fait des brosses pour le sport, sur différentes autres activités. Mais notre savoir-faire, on l'exprime de manière très large sur les brosses à dents.
Et en visitant l'usine, on peut voir des ouvriers au travail?
Ah, bien sûr, et c'est là que réside toute la différence. Quand on affirme notre traçabilité, c'est de dire quand vous venez nous voir, vous voyez les équipes qui sont au pied des machines, qui expriment leur savoir-faire, vous pouvez discuter avec les salariés et c'est ça le secret du Made in France, c'est de décloisonner, d'arrêter de dire que finalement il y a des secrets de fabrication partout, qu'on peut rien montrer. Une brosse à dents, il faut démontrer, il faut justement expliquer nos différences et qu'en visitant, eh bien, on voit tout ça.
Merci beaucoup Olivier Reboissonnet pour toutes ces informations, bravo. Et c'est donc cette brosserie française qui est là, c'est une des dernières du genre en France. Alors si vous passez, madame, monsieur, auditeur, auditrice d'Europe 1, si vous passez par Beauvais dans l'Oise, sachez que ça se visite, cette usine. Au revoir, Olivier. Merci, bonne journée à vous.
Au revoir.
D'autres infos, monsieur Gavitz?
Et oui, pour visiter l'usine d'Olivier, on va sur le site de l'Office de tourisme de Beauvais. On mettra tout ça en ligne sur europe1.fr. C'est comme ça qu'on réserve. Ça coûte 8,80€ la visite. Et ensuite, c'est simple, c'est tout, ouvert toute l'année.
Et une adresse si on veut rester sur place?
Oui, l'hôtel-restaurant Le Moulin des Forges, à 15 km de Beauvais, à Saint-Omer, en Chaussée. C'est une auberge tout comme on l'aime, vous savez, avec le petit cadre champêtre, le glouglou du ruisseau juste à côté, qui fait tourner la roue de l'ancien moulin, simple, bien tenu pour la partie hébergement. Chambre, 68€ pour une personne. J'ai donné le prix pour une personne pour Sarah, parce que je sais qu'elle aime bien. 75 pour deux. Menu, deux plats à midi en semaine, 15,50€.
Pour une personne, elle est peut-être plus chère.
Mais oui, ça c'était la semaine dernière, ça va vite.
Je ne veux pas me fâcher avec Sarah, donc je donne le prix pour une personne.
Oui, peut-être, mais il y a du monde dans le couloir.
On met les infos sur europe1.fr, bien entendu.
Rendez-vous. Alors, autre chose, vous savez que sur Europe 1, ben, on évolue, on s'adapte.
C'est vrai.
On se modernise. Moralité, rendez-vous dès demain de 19 à 21h, c'est nouveau pour Europe 1 Soir. Nouvelle formule, présentée par Pierre de Villeneuve. C'est 2 heures d'actu, hein, pour préciser, décrypter, débattre de l'info de la journée, avec des invités et les voix d'Europe 1, bien sûr. Sarah?
Europe 1 Soir de 19h à 21h, présenté par Pierre de Villeneuve, dès demain sur Europe 1.
Dans un instant sur Europe 1, un site du patrimoine qui va vous conduire dans l'Essonne, près de Paris, à Milly-la-Forêt, pour une bonne raison. C'est parce que c'est très beau, mais ensuite c'est pour visiter la maison où a vécu l'un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle, Jean Cocteau. Et juste après, vous entendrez les confidences de l'acteur André Dussolier sur son île de Ré, où il passe le plus de temps possible, et ça sera au micro Europe 1 de Daniel Moreau.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Ce matin, dans le journal du dimanche, la bataille sur la GPA a commencé au moment où le Parlement européen la condamne. Éclairage et décryptage autour de cette pratique controversée avec l'entretien du professeur Friedman, le père du premier bébé éprouvette qui est opposé. Mais aussi la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises et joue son destin politique. Les confidences de l'acteur Viggo Mortensen, le récit de la censure du livre Transmania sur le phénomène trans. Le JDD a retrouvé en kiosque et en version numérique.
Verisure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Verisure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Europe 1, 11h30.
Balade en France.
William Lémergie.
Voici maintenant la balade du patrimoine sur un site qui abrite une belle demeure du 17e. Alors, en fait, c'est une ancienne dépendance d'un château, le château de la Bonde, et ça se passe à Billy-la-Forêt, Gavin,
c'est oui, ce qu'on oui, c'est à une heure de Paris environ, et c'est dans cette maison que Jean Cocteau a vécu pendant presque 25 ans. Mm-hmm. C'est un artiste qu'on a tous un jour rencontré son nom ou vu son œuvre. Oui. Il a traversé le siècle grâce à un talent qu'on pourrait dire pluridisciplinaire.
Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, lui, c'est un bon exemple. Nous sommes en ligne pour en savoir plus avec Muriel Janton, qui est la directrice de la maison Jean Cocteau. Bonjour Muriel.
Bonjour William.
Alors, avant de faire la visite avec vous, bien sûr, un mot quand même sur l'artiste. À l'origine, quelle était sa vocation? Parce qu'il a touché à toutes les formes d'art, lui, la poésie, le dessin, la littérature, la peinture. Il a aussi fait des films, et je me suis toujours demandé, mais au début, il voulait faire quoi?
Alors au début, il écrivait des poèmes. Il a écrit, il n'avait pas 20 ans, il a publié des poèmes avant la guerre de 14. Et c'était son premier art, sa première expression artistique.
Ah d'accord.
Voilà, il était poète. Et il est resté poète parce que quand on lui disait qu'il était cinéaste ou céramiste, etc., il disait « je suis poète ». Pour lui, ça... Ça voulait tout dire.
D'accord. En quelle année, finalement, le poète a commencé à devenir célèbre? C'était à quelle occasion? Et s'agissait-il de poésie?
Alors, il a été célèbre dans le Paris un peu mondain de 1908 parce qu'il a donné une audition de ses poèmes au Théâtre Fontaine. Et c'est comme ça qu'il était célèbre. Vous savez, il avait publié un recueil qui s'appelait « Le prince frivole » et ça le qualifiait tout à fait. C'était un jeune homme brillant, bourgeois, très, très à la mode.
Très à la
et
mode.
Puis après la guerre, oui, il était à la mode. Et puis après la guerre de 14, ça a complètement changé. Il s'est aperçu, il a renié totalement ce qu'il avait fait.
Ah bon?
Et oui. Il a trouvé que c'était trop superficiel. C'est une nature très grave, en fait, Jean Cocteau, sous ses airs un peu.
Ah bon ?
Et alors, il a commencé à écrire. Il a écrit des romans, il a écrit des pièces de théâtre.
Oui, exact.
Et puis, il a fait des films entre les deux guerres. Il a beaucoup, beaucoup produit. Et puis, il a dessiné. C'est un des aspects de son talent qu'on connaît bien, oui, mais qui est tout à fait intéressant.
Oui, mais ce qui est curieux, c'est quand on regarde son œuvre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans le domaine artistique? Dessiner, oui. Peindre, oui. Écrire, oui. Des romans, oui. Des pièces de théâtre, c'est sans fin. C'est incroyable ce que cet homme fait. Sarah?
Oui. Alors écoutez, il y a quelque chose pas fait, c'est la musique. Et alors c'est pour ça qu'on en parle, nous, à la maison Jean Cocteau.
Ah.
Parce que Jean Cocteau et la musique, c'est un sujet passionnant.
Ah bon? Non, connais-moi.
Oui. Oui, on connaît moins. Il n'était pas compositeur. Il était musicien un peu amateur. Mais il s'est beaucoup intéressé à la musique. Et pourquoi il a touché à tout, comme on dit un peu, de façon un peu péjorative,
oui.
Malgré tout, c'est parce qu'il pensait qu'il fallait de la modernité partout.
Ah.
Et qu'il fallait un art dans tous les domaines qui soit celui du XXe siècle. Donc, avec les musiciens, avec des jeunes musiciens, par exemple le groupe des Six, c'est ça, c'est dire à des jeunes musiciens, écoutez, maintenant, vous n'êtes plus de Debussy, Ravel, c'est le XIXe siècle, vous devez faire la musique du XXe siècle. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est intéressé à la musique, à toutes les musiques, parce que ça va effectivement du groupe des Six jusqu'à la chanson. Vous savez qu'il était très ami avec Edith Piaf,
oui.
Il était l'ami de Gilbert Bécaud, il était l'ami de Charles Trenet, il a pratiqué toutes sortes de musiques un peu dans l'esprit de... qu'il aimait.
Gavin,
oui, les concerts vont revenir d'ailleurs au beau jour, je crois, dans la maison de Jean Cocteau pour célébrer musique qu'il aimait.
Oui, absolument. On fait pour la deuxième année un cycle de concerts. Il y a 8 concerts du 22 juin au 14 septembre, les samedis à 18h, ça s'appelle les samedis chez Jean Cocteau, un peu à la manière des salons de musique, mais avec des musiques très diverses aussi, qui balayent un peu tout cet univers du XXe siècle.
D'accord, Sarah ?
Oui, cette maison était une maison de week-end où il passait plus de temps que ça ?
Alors, la notion du week-end, c'était pas tout à fait celle qu'il pratiquait.
La fin de semaine pouvait durer 7 jours.
Ouais, alors il habitait là, il habitait Paris en même temps. Hein. Il habitait aussi le midi, parce que c'était la période où où il était chez Francine Westweiler à Villefranche-sur-Mer. Donc, mais il était ami de temps en temps. D'ailleurs, les anciens maintenant, les gens qui l'ont connu sont âgés, mais certains s'en souviennent encore. Il faisait ses courses, il allait voir le match de foot. Voilà, c'est quelqu'un de très, très, très
Gavin,
social.
Et oui, Muriel, qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison aujourd'hui quand on vient la visiter ?
Alors, on trouve son univers. C'est une promenade à travers l'univers de Jean Cocteau, les meubles, les objets.
Ce sont ces meubles, ce sont ces objets ?
Oui, tout à fait. Les pièces, certaines pièces ont été conservées vraiment dans leur jus grâce à son fils adoptif, Édouard Dermite, qui, après sa mort, a tenu à en faire un lieu de mémoire pour Jean Cocteau. Et donc, tous ces objets, ces meubles sont restés vraiment intacts, le décor de certaines pièces. Donc, c'est ça qu'on voit d'abord et avant tout.
Mais Sarah ?
Alors, il est question aussi de Jean Marais dans cette maison.
Tout à fait. Alors, Jean Marais a acheté la maison avec Jean Cocteau en 1947. Voilà. Donc, ils étaient ensemble à l'époque. Peu de temps après, il n'était plus à demeure avec Jean Cocteau, mais il a toujours gardé, vous savez, Jean Marais, une admiration à rester immense pour Jean Cocteau.
Oui.
Et donc, nous avons voulu cette année rendre hommage à cette relation, à ce couple extraordinaire. Et nous ouvrons donc le deuxième étage, nous ouvrons partiellement le deuxième étage de la maison, l'étage de Jean Marais.
Et ce sont aussi ces objets ?
Alors, il y en a peu, parce qu'il y en a peu qui ont été conservés, malheureusement. Donc, c'est plutôt une évocation par des films, par des photos, par du son, de cette relation, de ce qu'elle a produit, aussi parce qu'elle a produit des chefs-d'œuvre.
Jean Cocteau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un artiste très connu dans ce siècle et très mondain, et il adorait ça, il connaissait le tout Paris. Est-ce qu'on peut imaginer que de nombreuses célébrités sont passées par cette maison ?
Alors, on ne sait pas exactement. On a quelques photos qui montrent que Marlène Dietrich est venue, Coco Chanel est venue.
Oh ben ça va. Oui.
Voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui sont venues. Voilà, mais ils venaient lui rendre visite à Paris aussi.
Oui, bien sûr.
Mais ça n'est pas qu'un mondain. J'ai employé ce terme. Ça n'est pas qu'un mondain. C'est aussi un artiste extrêmement profond et
sensible.
Et intéressant.
Non, ce qui est intéressant, c'est que pour les plus jeunes, c'est de se dire ce monsieur qui a l'air d'avoir un certain âge, en fait, il est extrêmement moderne. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans son désir, dans tous les arts qu'il a fréquentés, de dire allez, il faut aller à la pointe et il faut faire en sorte de dépoussiérer tout ça.
Mais ces artistes-là qui et qui osaient, qui avaient cette audace-là, c'est précisément les artistes qui ont réussi à créer des mouvements artistiques, à complètement bousculer tout ce qui était classique, l'art classique, la peinture classique, la sculpture classique, et tout d'un coup, un nouveau monde artistique s'offrait à nous.
Et on parle
grâce
encore
à ces gens-là. Et en même temps, ils détestaient les écoles, ils détestaient les ismes, ils disent lui-même. Ils détestent les ismes, il était avant tout quelqu'un d'extrêmement libre. Donc, il a côtoyé tous les mouvements artistiques du XXe siècle, le surréalisme, le dadaïsme, etc. Mais il est resté à part. Il est resté à part, ce qui lui a valu d'ailleurs parfois un peu de difficultés pour être reconnu comme un artiste à part entière.
Et oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parfois désagréable quand on dit touche à tout, mais ça peut être très honorable quand on fait dans chaque discipline des chefs-d'œuvre. Donc après quand on touche à tout comme ça, moi je veux bien.
Oui, exactement, il a réussi dans tout.
Oui, c'est vrai. Et cette maison est le témoin de tout ça. Je vous remercie de nous en avoir parlé, Muriel Genton.
Je vous remercie.
Ça va donner à tous ceux qui habitent pas trop loin l'idée de la visiter. Je rappelle que c'est à Milly-la-Forêt, c'est dans les Sodes. Oh, allez, vous êtes à peu près à une heure de Paris, à une heure de Fontainebleau. Je vous souhaite une bonne journée.
Une demi-heure.
Oh, ben, c'est encore moins. Pour y aller en vélo. Merci. Au revoir, Muriel. Au revoir. D'autres infos. Merci, au revoir. D'autres infos, Monsieur Gabins?
Oui, c'est ouvert jusqu'au 3 novembre, du jeudi au dimanche, de 11h à 18h, et ça coûte 9,50€ l'entrée.
Mais si vous voulez rester à Milly-la-Forêt, parce que c'est vraiment un joli coin, et puis en plus, ça a été l'objet de pas mal de tableaux de peintres célèbres. Oui, on mange où?
Une petite adresse pour manger, l'auberge d'Auvergalant. Auvergalant, rien que ce jeu de mots. C'est à Noisy-sur-École, à 5 km de Milly-la-Forêt. C'est une adresse traditionnelle dans une jolie demeure en pierre avec des plats bien français, fricassés de pintades de Bresse. Ou encore quasi de veau à la Berrichonne.
Ah, c'est bien ça.
À partir de 36,50€ entrée plat dessert.
Vous voyez, ça, c'est la tradition aussi. Ça, fricassé de pintades de Bresse.
Ah.
Bien joué. Bon, voici maintenant la rencontre hebdomadaire dans Balade en France entre une personnalité et le lieu de son choix. Un lieu, un site où notre invité a passé, ou passe encore d'ailleurs, des moments privilégiés. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'acteur André Dussollier, actuellement au cinéma d'ailleurs, qui répond aux questions de Daniel Moreau. Alors attention, c'est un montagnard, certes, mais il a une grande tendresse pour l'île de Ré.
11h30, Balade en France sur Europe 1.
Bonjour André Dussollier.
Bonjour Daniel.
Alors vous êtes à l'affiche d'une comédie trépidante, hilarante, réjouissante, mais aussi émouvante, réalisée par Yvan Calberac. Dans N'avoue jamais, vous formez à nouveau un couple dans la tourmente avec Sabine Azéma, et on sent que vous êtes content de vous retrouver. Et dans Balade en France, vous nous aviez emmenés dans la région d'Annecy où vous avez grandi, mais vous quittez parfois vos montagnes pour l'océan Atlantique. Alors quels sont vos premiers souvenirs de ces îles de l'océan Atlantique?
Eh bien, j'appartiens à une famille où il y avait beaucoup d'enfants de mon âge, et donc les deux sœurs jumelles, ma mère et ma tante, donc nous emmenaient toujours à l'océan Atlantique. On faisait la grande traversée. C'était une récompense, quoi, pour moi, le montagnard qui, bon, avait le bonheur d'être dans les montagnes, mais tout d'un coup, je pouvais aller pendant les vacances me baigner dans l'océan, aller sur les plages, l'île de Ré, faire du vélo. Surtout, il y a plein de choses magnifiques et à vivre sur l'île de Ré.
Justement, vous dites que même après toutes ces années, vous êtes toujours aussi amoureux de cette île. Qu'est-ce qui en fait vraiment le charme? On parle d'une lumière particulière.
C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, il y a des peintres là-bas, beaucoup, qui viennent parce que c'est très doux comme lumière. Il y a tellement d'endroits magnifiques qui sont à la fois authentiques et qui sont des lieux de balade, surtout. C'est-à-dire qu'on peut faire l'île de Ré du sud au nord et du nord au sud en vélo. Et il y a des villages qui sont restés tout à fait authentiques. Maintenant, j'ai découvert le sud de l'île, à Sainte-Marie, où où je suis allé l'année dernière, où je vais retourner d'ailleurs cette année, dans un grand centre de Thalasso. Puis ensuite,
il y a Talente, aussi... Non, c'est
oui,
ça
exactement. Ouais. Et puis après, il y a aussi la flotte, puis Saint-Clément, et puis surtout les portes. C'est là où j'avais l'habitude d'aller, et cette grande plage, cette immense plage, il y en a beaucoup des plages là-bas, comme la Conche qui est au bout de l'île, qui doit faire 5 kilomètres, je crois. C'est absolument incroyable. Il y a évidemment les ostréiculteurs, il y a la végétation aussi, la faune et la flore sont évidemment prioritaires. Il y a même une maison, la maison du Fier, où il y a des experts qui sont là pour... parce que c'est un endroit où les les oiseaux migrent beaucoup, donc il y a des endroits où ils se posent, ils repartent, etc. C'est beau, on peut les observer, voilà, et on
est accompagné par les... Ça, c'est aux portes Henri, c'est la maison du Fier, ouais, c'est ça, c'est un endroit original. Autre chose originale, quand on ne connaît pas la région, c'est les marais salants. Ce sont comme des palettes de peintres, presque, avec des couleurs rosées.
C'est très impressionnant, ils ont même des chemins pour y accéder, on n'ose pas trop les emprunter, parce que vraiment, on ne sait pas, c'est comme un domaine privé qui leur appartient. C'est beau de les voir travailler, ramasser le sel, bon, et d'aller de marais salant en marais salant. Et non, c'est très beau. Il y a un côté sauvage et naturel qui demeure, qui est entretenu par les Iliens, qui y tiennent beaucoup, ils ont bien raison.
On vous retrouve donc sur grand écran, merci André Dusselier, ça s'appelle N'avoue jamais, d'Yvan Calberac, aux côtés de Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. C'est une comédie romantique et j'ai évidemment beaucoup aimé ce mélange d'humour et d'amour, vous connaissez mon côté midinette.
Oui, bien sûr,
merci André Dusselier de nous avoir emmené de village en village aussi sur l'île de Ré pour Balade en France.
Voilà, et j'en profite aussi pour saluer William Lémergie, que je connais aussi depuis un certain temps et qui en effet a dû connaître l'île de Ré, et comme je la raconte, j'imagine, tous ces endroits qu'on aime beaucoup.
C'est vrai, il a raison. André, merci André, bonjour. Et c'est vrai que je connais bien l'île de Ré pour avoir été en classe à La Rochelle. et on a souvent parlé de ça avec André le Merveilleux. Ce film est adorable. C'est un film, vraiment, vous ne perdrez pas votre temps. Et puis alors, Danielle Moreau, qui l'a interviewé, elle n'a pas parlé par hasard de cette île-là, parce qu'elle, c'est la reine de Royan. C'est pas loin.
Bien sûr, c'est vrai.
C'est pas loin.
Reine de Royan,
oui,
c'est bien.
Là-bas, il y a Elisabeth II, c'était en Grande-Bretagne, et puis là, il y a Danielle. Bon, dans un instant sur Europe 1, une balade culinaire régionale. Alors, elle aussi, elle est signée du chef Fabrice Mignot. Elle vous présente les biscuits roses de Reims, dont la recette remonte au XVIIe siècle. Non, mais enfin, depuis, ils ont arrangé le truc. Hein. Et juste avant, vous aurez droit à une expression régionale dont vous ignorez probablement l'origine. Vous savez, c'est dans le Nord, quand on dit à un ami « Bon, bah allez, à la revoyure hein, !» Eh bien, on vous dira d'où ça vient.
11h30, balade en France sur Europe 1.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Vous êtes toujours dans Balade en France sur Europe 1 et juste avant la balade dans les expressions régionales, je vous laisse en compagnie d'Alain Chamfort pour la chanson intitulée « La grâce ».
Ne serait-ce qu'une fois hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su grâce. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler de je suis touché les gens autant que ceux qui m'ont touché. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix parler de moi, parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part du mal.
C'était Alain Chamfort et ça s'appelle La Grâce.
Europe 1,
11h, 12h30.
Balade en France, William Lémergie.
Et dans un instant sur Europe 1, la recette plus l'histoire du biscuit rose de Reims. Alors c'est une douceur particulièrement prisée par les rois de France. La veille de leur sacre à Reims, on va vous expliquer ça. Mais tout de suite, voici l'explication d'une curieuse expression régionale. Curieuse, pas quand on le dit, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors, il s'agit de « à la revoyure ». Alors, c'est curieux, pourquoi ? Parce que son orthographe n'est pas très simple. Dans le Nord-Pas-de-Calais, dont elle est issue, cette expression, ça s'écrit « à », plus loin, l'arvoyure, alors L'A-R-V-O-Y-U-R-E. Vous confirmez, Sarah ?
Oui, je confirme. J'ai cru que vous alliez dire que j'étais originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je me suis dit, ouh là 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 là, il est mal renseigné, cet homme-là.
Non, mais je sais faire
ma sympathie, oui.
Non, je sais faire la différence entre Téhéran et Lille.
Ah oui.
Je sais que vous, c'est plutôt Téhéran.
Ah, on m'appelle la Faradiba du Nord, vous détrompez-vous. Bon. Alors, donc, je vais vous parler, oui, donc, de cette expression, d'abord, à la revoyure, de l'orthographe ensuite. C'est vrai que les dictionnaires, la majorité, en tout cas, des dictionnaires qui parlent des expressions françaises populaires, ouais, mentionnent cette orthographe un peu étrange. Alors, pourquoi ? Parce que ça nous vient du nord de la France, c'est un mélange, en fait. Donc, c'est un « au revoir ». Amical,
au revoir,
amical, bienveillant, façon picard. Mm. C'est un peu mieux qu'un au revoir d'ailleurs, parce que c'est la promesse que l'on va se retrouver. C'est comme une assurance en plus, vous voyez, c'est un peu mieux que le « allez à plus », comme on entend aujourd'hui.
D'accord, alors Nord-Pas-de-Calais, c'est une région, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui est assez riche en histoire, en dialecte, en patois. Alors, précisément, d'où elle vient cette expression-là ? Parce que j'ai jamais entendu ça ailleurs, ou alors tout le monde le disait, oui, mais on savait pas d'où ça venait.
Et on savait pas comment ça s'écrivait, surtout.
Non plus.
Mais parce que à la revoyure, moi je l'ai entendu plein de fois.
À la revoyure, moi,
voilà,
je pensais que c'était
à la revoyure. Alors ouais. Et là, c'est à la revoyure.
Ouais.
Et ben alors on disait dans les dialectes ch'ti pour dire que deux personnes allaient se revoir, qu'ils étaient de revoyure. Alors on disait également dans un dialecte picard. À nous revir. Voilà ce qu'il voulait dire, à nous revoir, j'espère. Mm. Alors, quand on a mélangé les deux expressions, de façon à ce que tout le monde, dans tous les villages, comprenne la même chose, ça a donné à la revoyure. Mm. C'est finalement assez simple, hein. Mais je précise qu'il y a une notion de nécessité de se revoir qui est importante, de la nécessité de se revoir. C'est ce que je ressens quand je pense à vous, William.
Oh.
Quand je pense à vous, Gavin, c'est quand je pense aux éditeurs d'Europe 1 chaque dimanche. Alors, à la revoyure.
Merci, Sarah. À la revoyure, ça veut dire à tout à l'heure, pour une balade culturelle qui va nous emmener alors à Meudon, cette fois-ci, c'est pas loin de Paris, pour une, le mot gigantesque peut être employé, oui, pour une gigantesque exposition sur... Alors, c'est l'histoire des jouets en France et ailleurs dans le monde, mais c'est pas simplement ça.
Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
Pour la balade culinaire de ce dimanche, je vous propose d'écouter la recette du biscuit rose de Reims, qui va vous être expliquée par le chef Fabrice Mignot, alias Fabounet, devenu pour les besoins de cette émission le plus grand historien de la gastronomie régionale française. Ça vous plaît, ça, Fabrice, quand je vous traite de grand historien de la cuisine régionale?
Ouais, ouais, c'est une super insulte, ça. Génial, vous pouvez continuer.
Alors, avant de parler de la recette, Fabrice, un petit mot d'histoire, vous aimez bien?
Ouais, j'adore, et surtout là, c'est parfait, il y en a énormément pour cette préparation. Alors, le biscuit rose de Reims, inventé au XVIIe siècle, ouais. C'est les boulangers qui sont à l'initiative. Donc, en fait, ils ont eu l'idée de cuire une pâte deux fois. C'est-à-dire, ils ont, quand le four à pain était chaud, ils ont cuit une fois, ils ont enlevé cette préparation, et ils l'ont mis quand le four est en train de refroidir, le four à pain. Donc, ils l'ont cuit deux fois. Et ça a donné le nom à une préparation que tout le monde connaît, le biscuit. Bis, deux, cuit, deux.
Oui, mais...
Donc en fait, il est cuit deux fois, biscuit.
Mais attendez, Fabrice, vous voulez dire que le mot biscuit a été inventé à cette occasion-là?
Eux, ils ont inventé le biscuit rose de Reims, mais le mot biscuit vient en effet des boulangers qui cuisaient deux fois.
À l'époque,
donc,
oui,
ils
d'accord,
ça,
les boulangers.
Bis, deux cuits.
Oui,
voilà.
D'accord.
Deux fois cuit.
Bon, à part ça, il y a, à quoi il ressemblait à l'époque, le biscuit?
Bon, alors... Il est d'un rose, je dirais, un peu chimique. Pourquoi?
Ah bon?
Parce qu'en fait, quand on le voit visuellement, il n'y a pas grand-chose en cuisine qui est rose de manière naturelle, on va dire.
Ouais, ouais.
Donc, en effet, il y a un côté un peu chimique. Mais pourquoi? En fait, de base, il était évidemment blanc. Et on a voulu l'aromatiser avec de la vanille. Et en fait, quand on aromatise la vanille, on va venir presser comme ça des gousses dans du sucre.
Ouais.
Et ça va extraire comme ça des petites particules marron. Donc, en fait, ça donnait un blanc tacheté de marron. Donc, ils se sont dit, on va mettre une pigmentation un peu rouge, et le marron et le rouge, ça a donné rose.
Tiens.
Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est devenu rose. À la base, il devait être rouge, mais il a fini rose à cause de la vanille.
Et à part ça, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Il y avait une utilisation assez particulière à propos de Reims, qui n'est pas n'importe quelle cathédrale là-bas, hein, puisqu'on sacrait les rois.
Exactement, mais là, j'adore cette histoire, parce qu'en plus, j'explique pourquoi j'adore. C'est déjà de base, en effet, c'est une tradition que les rois de France consommaient la veille donc de leur sacre ce biscuit. Ils le trempaient dans du champagne, et si le biscuit ne s'effritait pas, ça veut dire qu'ils allaient passer un règne solide, tranquille. Mais ce qui me fait rire, en fait, c'est que ce biscuit, il s'effrite jamais. Il est connu pour ça. Il est dur, en fait. Donc, en fait, il prenait pas beaucoup de risques, quand
même. Non.
Mais en même temps, je comprends bien qu'il voulait pas se porter un peu la poisse, donc bon.
Oui. Il dit, ça y est, je suis Shkoumoun premier, le roi de la... le roi du malheur.
Shkoumoun premier.
Alors, il faut savoir que même si vous consommez ce biscuit-là dans n'importe où endroit en France, une petite épicerie fine, il faut savoir qu'il est produit dans une seule et unique maison. La maison Fossé, donc évidemment à Reims, qui produit biscuit depuis 250 ans et la recette n'a jamais changé. Donc il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul endroit pour consommer ce produit et qui est produit, donc c'est Maison Fossier.
Bon, alors on y va pour la recette, rapido.
Alors rapido, parce qu'encore ça fait partie des produits, ça, vous allez les acheter. On n'est pas là pour produire et faire des biscuits de Reims. On fait confiance à nos amis artisans. Donc la recette, je vous la dis rapidement.
Allez-y.
Alors en fait, vous allez, ce qu'on appelle ça foisonner, c'est-à-dire qu'on va mélanger des jaunes très très longuement dans un batteur et en fait ça va gonfler. Ça, c'est ce qui donne toujours le moelleux dans un biscuit. C'est quand on mélange les œufs avec du sucre, ils vont gonfler. Mmh. On continue avec des blancs pour encore plus faire gonfler ce mélange et on va évidemment, à ce moment-là, le coloré. Donc, on met un peu de rouge et ça finira rose. Dans cette préparation, on va y balancer la maïzena, la levure et la farine, ce qui va faire que ça devient, à ce moment-là, une pâte. On continue à mélanger, mais doucement, avec la maryse pour pas faire descendre notre mélange. On va, ce qu'on appelle pocher, c'est-à-dire qu'une poche à douille, on fait des boudoirs, finalement. On laisse croûter les boudoirs, un peu comme les macarons. On va laisser croûter par-dessus un peu les boudoirs avant de les cuire. Et on fait deux cuissons. Une cuisson à 180 degrés. On baisse immédiatement le four, ça va tomber à 120 degrés. Et on continue de cuire 12 minutes. et on obtient ce fameux biscuit, cette spécialité régionale, voire française, qui fait la gloire quand même de cette région.
Bah, oui, puis en plus, ça date du XVIIe siècle et ça n'a pas bougé, si j'ose dire. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de la noter, madame, monsieur, auditeur d'Europe 1, nous mettons les détails, tous les détails sur europe1.fr. Et puis, Fabrice, à bientôt, à la semaine prochaine, par exemple. Au revoir. Dans quelques instants, après les titres d'Europe 1 Midi Week-end, un site de plein air, et tout de suite après, une balade culturelle.
11h, midi 30, balade en France sur Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes ?
Bah, comment vous avez deviné ? Dès demain chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes ? Mais ce prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix, patron, hein ?
Oui, bah, allez, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes, là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques précises.